Chapitre 4, qui se passe tout entier en visite. Monsieur Jones s'était promené tout le jour dans la rue, sans cesser d'avoir l'œil sur une certaine porte. Et ce jour, quoique l'un des plus courts de l'année, lui en avait paru l'un des plus longs. Enfin, l'horloge, venant de sonner 5 heures, il retourna chez Mrs. Fitzpatrick, qui, malgré le peu de convenance d'une visite faite d'aussi bonne heure, le reçut très poliment, mais continua d'affecter la même ignorance relativement à Sophie. Jones, en s'informant des nouvelles de son ange, avait laissé échapper le mot de cousine. Mrs. Fitzpatrick l'interrompit aussitôt en lui disant « Vous savez donc, monsieur, que nous sommes parentes, et comme nous le sommes en effet, vous permettrez que je me croie le droit d'entrer avec vous dans le détail des intérêts que vous avez à traiter avec ma cousine. » Jones hésita quelque temps à cette question, et répondit enfin qu'il avait entre les mains une somme considérable d'argent qui appartenait à Sophie, et qu'il désirait la lui remettre. Il tira alors le portefeuille de sa poche et instruisit Mrs. Fitzpatrick de ce qu'il contenait, ainsi que de la manière dont il était tombé entre ses mains. Il avait à peine fini son histoire que le bruit le plus violent ébranla toute la maison. Entreprendre de décrire ce bruit à ceux qui en ont entendu un pareil serait parfaitement inutile, et essayer d'en donner une idée à ceux qui n'ont rien entendu de semblable serait encore plus inutile, car on peut dire avec beaucoup de sévérité « Non acuta sic geminant corribantes era ». Jamais des corribantes, avec un bruit plus fort, l'airain n'a retenti. Bref, un domestique frappa, ou plutôt tonna à la porte. Jones fut un peu surpris de ce bruit, n'en ayant jamais entendu de semblable en pareille occasion. Mais Mrs. Fitzpatrick lui dit avec beaucoup de calme que, comme il lui arrivait du monde, elle ne pouvait lui faire aucune réponse en ce moment. Elle lui fit entendre en même temps que s'il voulait rester jusqu'à ce que la compagnie fût sortie, elle aurait quelque chose à lui dire. La porte de l'appartement s'ouvrit soudain à 2 battants, et après avoir poussé en avant l'un des 2 côtés de son large panier, Lady Bellaston entra. Elle fit d'abord une très profonde révérence à Mrs. Fitzpatrick, n'en fit pas une moins profonde à M. Jones, et alla se placer au plus haut bout de la salle. Nous entrons dans ces petits détails pour l'instruction de quelques femmes de province de notre connaissance, qui croiraient manquer totalement aux règles de la modestie si elles faisaient la révérence à un homme. La compagnie était à peine assise que l'arrivée du père d'Irlande, dont nous avons parlé, causa un nouveau trouble, et à peu près le même cérémonial. Bientôt après, la conversation commença à être, comme on dit, extrêmement brillante. Cependant, comme il ne s'y dit rien qui puisse être considéré comme de quelque importance pour notre histoire, ou même, il faut en convenir, de la moindre importance en soi-même, je la passerai sous silence. D'autant plus que l'expérience m'a prouvé que de très jolies conversations devenaient souvent très ennuyeuses dès qu'elles étaient transcrites dans des livres ou répétées sur le théâtre. Cette nourriture spirituelle est une sorte de friandise dont ceux qui sont exclus des cercles brillants doivent se résigner à s'abstenir, non moins que des autres friandises de la cuisine française que l'on ne sert que sur la table des grands. D'ailleurs, les unes et les autres dépendent tellement des goûts qu'elles finiraient souvent par devenir la proie du vulgaire. Le pauvre Jones était moins acteur que simple spectateur de cette scène brillante. Car, quoique dans le court intervalle qui avait précédé l'arrivée du père d'Irlande, Lady Bellaston d'abord, et après elle Mrs. Fitzpatrick, lui eussent adressé quelques mots, le noble lord ne fut pas plutôt entré qu'il accapara à lui seul toute l'attention des 2 dames, et comme il ne prenait pas plus garde à Jones que s'il n'avait pas été présent, sinon qu'il le fixait avec affectation de temps en temps, les dames suivirent son exemple. La compagnie fut si longtemps sans se séparer que Mrs. Fitzpatrick s'aperçut clairement que chacun de ceux qui la composaient avait le projet de demeurer le dernier. Elle prit en conséquence le parti de se débarrasser de Jones, le considérant comme celui avec qui elle croyait devoir faire le moins de cérémonie. Prenant donc occasion d'un moment de silence, elle lui adressa gravement la parole et lui dit « Monsieur, je ne pourrai probablement pas vous répondre ce soir au sujet de l'affaire en question, mais si vous voulez laisser un mot qui m'instruise, où je pourrai envoyer demain ?» Jones n'avait qu'une politesse naturelle, nullement secondée par l'art. Au lieu donc de confier le secret de son logement à un domestique, il en instruisit Mrs. Fitzpatrick elle-même, et se retira bientôt après très cérémonieusement. Il ne fut pas plus tôt sorti que les grands personnages, qui ne s'étaient nullement occupés de lui tandis qu'il était présent, commencèrent à s'en occuper beaucoup dans son absence. Mais si le lecteur nous a déjà pardonné le silence que nous avons gardé sur la partie la plus brillante de cette conversation, il ne sera sûrement pas moins disposé à nous excuser si nous lui en épargnons la partie la plus commune. Quoique peut-être il puisse être essentiel à notre histoire de ne pas oublier une observation de Lady Bellaston, qui se retira quelques minutes après M. Jones et dit à Mrs. Fitzpatrick en sortant « Je suis tranquille sur ce qui regarde ma cousine. Elle ne peut rien avoir à redouter de cet homme-là. » Notre histoire suivra l'exemple de Lady Bellaston et prendra congé de la compagnie actuelle, qui se trouva alors réduite à deux personnes. Comme il ne se passa rien entre elles qui nous intéresse le moins du monde, ni nous ni nos lecteurs, nous ne nous permettrons pas de les en occuper, ce qui ne servirait qu'à nous distraire d'objets qui doivent paraître d'une plus grande conséquence à tous ceux qui s'intéressent vivement aux affaires de notre héros. Chapitre 5. Ce qui arriva à M. Jones dans la maison qu'il habitait. Quelques détails sur un jeune homme qui y logeait, sur la maîtresse de la maison et ses deux filles. Le lendemain matin, d'aussi bonne heure que la décence le permit, Jones se présenta à la porte de Mrs. Fitzpatrick, où on lui répondit que cette dame n'y était point. Réponse qui le surprit d'autant plus que s'étant promenée en long et en large dans la rue, depuis la pointe du jour, si elle était sortie, il l'aurait nécessairement aperçue. Il fut cependant obligé de prendre cette réponse pour bonne, non seulement alors, mais à 5 différentes visites qu'il fit le même jour. Pour ne rien cacher au lecteur, nous devons l'instruire que le noble père, soit pour une raison, soit pour une autre, peut-être par égard pour l'honneur de Mrs. Fitzpatrick, avait insisté pour qu'elle ne revît pas M. Jones, qu'il regardait comme un pied plat, et que la dame avait consenti à lui faire cette promesse que nous venons de lui voir remplir avec une si rigoureuse ponctualité. Mais, ami lecteur, comme il se pourrait fort bien que vous eussiez de notre jeune homme meilleure opinion que Mrs. Fitzpatrick, comme vous pourriez même avoir quelque chagrin si vous pouviez craindre que, pendant tout le temps où il resta ainsi séparé de Sophie, il logea dans une malheureuse auberge ou même dans la rue, nous allons vous décrire son logement, qui était dans une maison très honnête et dans un très beau quartier de la ville. Voici le fait. M. Jones avait souvent entendu parler à M. Allworthy d'une dame chez laquelle il logeait ordinairement quand il était en ville. Il savait aussi qu'elle demeurait dans Bond Street et était la veuve d'un ecclésiastique qu'il avait laissé à son décès en possession de deux filles et d'un recueil complet de sermons manuscrits. De ces deux filles, Nancy, l'aînée, venait d'avoir 17 ans et Betty, la cadette, 10 seulement. C'est dans cette maison que Jones avait envoyé Partridge et il y avait loué une chambre pour lui au second et une pour Partridge au quatrième. Le premier était habité par un de ces jeunes gens que, dans le siècle dernier, on appelait à Londres « gens d'esprit et de plaisir », et assez convenablement à mon avis. Car de même que l'on désigne ordinairement les hommes par leur genre d'affaires ou leur profession, on pouvait dire aussi justement que le plaisir était la seule affaire ou la seule profession de ces messieurs à qui la fortune avait fourni le moyen de s'abstenir de toute occupation utile. Les salles de spectacle, les cafés et les tavernes étaient les lieux de leur rendez-vous. L'esprit et la plaisanterie étaient l'occupation de leurs heures les plus agréables et l'amour l'affaire de leurs moments les plus sérieux. Tous les vins et toutes les muses conspiraient ensemble à allumer dans leur sein les flammes les plus brillantes, et non seulement ils admiraient, mais quelques-uns d'entre eux étaient en état de célébrer la beauté qu'ils admiraient, et tous de juger du mérite de ces sortes de compositions. On se servait donc d'une expression juste en les appelant gens d'esprit et de plaisir. Mais je demande si l'on peut, avec la même propriété d'expression, donner la même qualification à ces jeunes gens de notre siècle qui ont la même ambition d'être cités pour leur qualité brillante. Quant à l'esprit, ils n'ont certainement rien de commun ensemble. Pour leur accorder ce qui est leur dû, ils s'élèvent un degré plus haut que leurs prédécesseurs et peuvent être nommés gens de sagesse et de vertu. Prenez garde de donner à ces deux mots une autre acception que la mienne. Ainsi, à l'âge où ces messieurs que j'ai cités plus haut employaient leur temps à chanter le verre à la main les charmes d'une femme ou à faire des sonnets à sa louange, à donner en plein spectacle leur opinion sur une pièce de théâtre ou sur un poème chez Will ou chez Button, nos jeunes gens modernes réfléchissent sur les différents moyens de corrompre une ville ou un bourg ayant droit de nommer au Parlement, ou méditent des discours pour la Chambre des communes, ou plutôt pour les magasins d'épicier. Mais la science du jeu est entre toutes les autres celle qui occupe le plus fortement leur pensée. Tous ces grands objets sont l'étude de leur moment de réflexion. Cependant, ils s'environnent d'un vaste cercle d'amusement. Ils font les connaisseurs en tout, ils jugent la peinture, la musique, la sculpture et la philosophie naturelle, ou plutôt antinaturelle, puisqu'elle est tout entière occupée du merveilleux, et ne connaît de la nature que ses monstres et ses imperfections. Quand Jones eut passé la journée entière en demandes infructueuses, sans pouvoir obtenir d'être admis chez Mrs. Fitzpatrick, il s'en retourna désespéré à son appartement. Tandis qu'il y était seul, livré tout entier à sa douleur, il entendit un violent tumulte dans l'appartement au-dessous, et bientôt après une voix de femme qui le priait au nom du ciel de descendre pour prévenir un meurtre. Jones, qui n'hésitait jamais en quelque occasion que ce fût, quand il s'agissait de venir au secours des opprimés, descendit précipitamment l'escalier. En entrant dans la salle à manger d'où partait tout le bruit, il y vit le jeune homme dont nous avons parlé, cloué contre la muraille par son laquais, et une jeune femme debout auprès d'eux, se tordant les mains, et criant de toutes ses forces « Au meurtre! Au meurtre !» Et en effet, le pauvre jeune homme semblait en quelque danger d'être étouffé, quand Jones courut précipitamment à son secours et l'arracha des griffes impitoyables de l'ennemi au moment même où il allait respirer pour la dernière fois. Quoique le maraud eût reçu nombre de coups de pied et de coups de poing de la part de son maître, qui avait plus de courage que de force, il s'était fait une espèce de scrupule de conscience de le battre et se contentait de l'étrangler. Mais il n'eut pas le même respect pour Jones, et ne se sentit pas plutôt traité un peu rudement par son nouvel antagoniste qu'il lui donna dans le ventre un de ces coups fourrés qui, à l'amphithéâtre de Broughton, paraissent procurer des jouissances si délicieuses à ceux qui les voient donner et ne font que très peu de plaisir à ceux qui les reçoivent. Le vigoureux jeune homme n'eut pas plutôt reçu ce coup qu'il songea à lui en témoigner la plus vive reconnaissance, et il s'ensuivit entre lui et le laquais un combat furieux, mais de courte durée, car ce maraud n'était pas plus en état de se défendre contre Jones que son maître ne l'avait été de se défendre contre lui. La fortune avait alors totalement changé la face des affaires. Le premier vainqueur était étendu sans respiration sur le plancher, tandis que le premier vaincu en avait repris assez pour remercier M. Jones de l'avoir secouru si à propos. Il reçut aussi les remerciements les plus sincères de la jeune femme présente, qui n'était autre que Miss Nancy, la fille aînée de la maison. Le laquais, s'étant relevé sur ses jambes, secoua la tête en fixant Jones, et avec un regard pénétrant lui cria « Dieu me damne, je ne veux plus rien avoir à démêler avec vous. Vous avez été sur le théâtre, où je suis diablement trompé. » Et nous pouvons en effet lui pardonner ce soupçon, car telles étaient l'agilité et la force de notre héros, qu'il eût pu très probablement tenir tête à l'un des boxeurs de la première force, et aurait très aisément battu à lui tout seul tous les licenciés les mieux remboursés de l'école de M. Broughton. Le maître, écumant de rage, ordonna sur-le-champ à son laquais de quitter son habit, ce à quoi il consentit très volontiers, à condition qu'il recevrait ses gages au même instant. La condition fut remplie, et le maraud chassé au moment même. Alors le jeune homme, dont le nom était Nightingale, insista très vivement pour que son libérateur prît avec lui sa part d'une bouteille de vin. Ce à quoi Jones, après en avoir été fortement pressé, consentit, beaucoup plus par complaisance que par inclination. Car le trouble de son esprit le rendait en ce moment très peu propre à la conversation. Miss Nancy, la seule personne de son sexe qui fût alors dans la maison, sa mère et sa sœur étant allées à la comédie, consentit à leur tenir compagnie. Quand on eut apporté sur la table la bouteille et les verres, le jeune homme se mit à raconter ce qui avait donné occasion à la précédente dispute. « J'espère, monsieur, dit-il à Jones, que vous ne conclurez pas de ce qui vient de se passer, que je me sois fait un usage de frapper mes gens, car autant que je peux m'en souvenir, c'est la première fois, je vous assure, que je me suis rendu coupable de cette espèce d'emportement. J'ai passé même à ce maraud un grand nombre de fautes extrêmement punissables, avant de me laisser aller à cet excès. Mais quand vous apprendrez ce qui s'est passé ce soir, j'aime à croire que vous me jugerez excusable. Il m'est arrivé de rentrer chez moi quelques heures plus tôt que de coutume, et j'y ai trouvé quatre gentilshommes en livrée, jouant au whist au coin de mon feu. Et mon Hoyle, monsieur, mon plus bel Hoyle, qui m'a coûté une guinée, tout ouvert sur la table, avec une quantité de porter répandue sur une des pages les plus importantes de tout le livre. Vous conviendrez que cela a été fait pour mettre en colère l'homme le plus patient. Cependant, je n'ai rien dit jusqu'à ce que l'honnête compagnie ait été retirée. Et alors j'ai fait une douce réprimande à ce maraud, qui, au lieu de me paraître embarrassé le moins du monde, m'a répondu insolemment que les domestiques devaient avoir leur moment de récréation comme les autres, qu'il était fâché de l'accident arrivé à mon livre, mais que plusieurs de ses connaissances en avaient eu un pareil pour un shilling, et que je pouvais lui retenir cette somme sur ses gages si je le voulais. Je l'ai grondé alors plus sévèrement que la première fois, et le coquin a eu l'insolence de... En un mot, il a imputé mon prompt retour chez moi à... Enfin, il s'est permis une réflexion, il a prononcé le nom d'une jeune dame d'une manière telle qu'il m'a fait perdre patience, et que dans ma colère, je l'ai frappé. Jones répondit qu'il ne croyait pas que personne pût l'en blâmer. Pour moi, ajouta-t-il, je vous avoue que dès la première impertinence, j'en aurais fait tout autant. En ce moment, la mère et la sœur de Miss Nancy rentrèrent de la comédie et se réunirent à eux. Ils passèrent ensemble une soirée fort agréable, car ils étaient tous extrêmement gais, excepté Jones, qui tâcha de le paraître le plus qu'il lui fut possible. À la vérité, sa vivacité naturelle, jointe à la douceur de son caractère, suffisait pour en faire un homme très aimable. Et malgré le poids insupportable qui oppressait son cœur, il le fut tellement dans cette circonstance qu'en se séparant, le jeune homme lui témoigna le plus vif désir de faire avec lui une connaissance plus intime. Il plut aussi beaucoup à Miss Nancy. Et la veuve, tout à fait charmée de son nouveau locataire, l'invita ainsi que l'autre à déjeuner chez elle le lendemain. Jones, de son côté, ne fut pas moins satisfait de sa nouvelle société. Car, quoique Miss Nancy fût fort petite, elle était extrêmement jolie, et la veuve avait tous les charmes qui peuvent embellir une femme de près de 50 ans. Comme elle était une des meilleures créatures du monde, elle en était une des plus gaies. Elle n'avait jamais pensé, ni dit, ni souhaité aucun mal, et avait constamment ce désir de plaire, que l'on peut appeler le plus heureux de tous les désirs, en ce qu'il manque rarement d'atteindre son but quand il n'est pas gâté par l'affectation. En un mot, quoiqu'elle eût personnellement peu de pouvoir et de crédit, on ne mettait pas plus de chaleur qu'elle dans l'amitié. Elle avait été l'épouse la plus sensible et la plus fidèle, et était encore la meilleure et la plus tendre des mères. Comme notre histoire ne s'occupe pas, ainsi que le font ordinairement les papiers nouvelles, de donner de l'importance aux gens dont on n'a jamais entendu parler, et dont on n'entendra plus parler par la suite, le lecteur peut conclure de ce que nous venons de dire de cette excellente femme, qu'elle jouera par la suite un rôle assez considérable dans le cours de cette histoire. Jones ne fut pas moins content du jeune homme avec lequel il venait de boire une bouteille de vin. Il crut discerner en lui beaucoup de bon sens, quoique un peu trop gâté par les sottises de la capitale. Mais ce qui le recommandait surtout au cœur de Jones, c'était quelques sentiments de générosité et d'humanité qu'il laissait paraître dans l'occasion, et particulièrement un grand nombre d'expressions du plus grand désintéressement en affaires d'amour. Ce jeune homme s'expliquait sur ce sujet dans un langage qui aurait fort bien pu convenir à un berger de l'ancienne Arcadie, et qui paraissait très extraordinaire, en passant par la bouche d'un moderne petit maître. Mais il n'était fat que par imitation, et la nature l'avait destiné à jouer un beaucoup plus beau rôle.